Merci Remco pour ton témoignage, parce que en fait, là je vais parler de choses générales, comme souvent quand on prend la parole pour une prédication, et ce que tu nous as raconté nous rappelle que tout ce qui est écrit là, c'est pour accompagner nos vies à nous, à chacun, personnel, avec nos propres chemins, et tout ça n'a de valeur que parce que ça rencontre individuellement chacun d'entre nous à un moment ou l'autre. Nous l'oublions pas. Hier, j'étais en contact avec Benjamin Thuriot, vous savez, notre frère qui est pasteur à Marseille. On s'échange régulièrement maintenant, depuis longtemps, des petits points musique. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de travailler sur ma prédication de demain. Je lui dis, toi, tu es professionnel, ça tombe bien, parce que moi, je m'y colle aussi, et c'est difficile. Il me dit, c'est sur quel thème? Je lui dis, c'est la suite de 1 Jean 2. Il me renvoie par texto à ça, c'est du lourd. Point de suspension. Et débrouille-toi avec ça. Donc, on est sur du lourd. Alors, j'essaie d'être assez rapide pour pas vous fatiguer, vu qu'on a déjà entendu des belles choses. Donc, nous continuons l'épître, la première lettre de Jean. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va aller donc la fin du chapitre 2, que, en effet, Emmanuel n'est pas traité, parce qu'il y a un verset qui est dans le chapitre 2, on ne sait pas ce qu'il fait là, qui est en fait l'annonce du chapitre 3, et on ira jusqu'au verset 10. Et comme d'habitude, je mets notre ami José au chômage. Et alors je suis content aussi d'être tombé sur ce passage, et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi c'est du lourd. Parce qu'on va être mis devant une réalité qu'on a peut-être tendance à oublier un peu, ou qu'on édulcore, ou qu'on met derrière des guirlandes, mais on va encore être mis face à un choix qui va nous paraître presque violent, très violent même. De toute façon, toute cette épître de Jean, cette première lettre, ne parle que de choses claires sans équivoque. C'est pas entre gris clair et gris foncé, comme disait un chanteur célèbre, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que depuis le début, on a parlé de c'est ou lumière ou ténèbres. C'est ou vérité ou mensonge. C'est ou amour ou haine. C'est ou Dieu ou diable. Ou c'est la vie avec le Père ou c'est la vie avec le monde. Et on a vu la semaine dernière, c'est ou Christ ou Antéchrist. Tous les premiers chapitres, tous ceux qui ont pu prendre la parole ici successivement, à un moment ou l'autre, on est retombé sur cette espèce de dichotomie, c'est ou l'un ou l'autre. On peut pas tergiverser. Et ce qui est intéressant, c'est que si finalement on faisait deux colonnes, je sais pas si vous, de temps en temps, vous avez des décisions à prendre dans votre vie, et vous dites, je sais pas, je dois faire ça ou ça. Ne serait-ce que pour un achat de télévision, je sais pas, mais ça peut être beaucoup plus important. Et on a souvent tendance à faire une colonne avec des plus, une colonne avec des moins. Ça, on se dit, voilà, puis s'il y a plus de plus que de moins, c'est ce qu'on va faire, c'est là, voilà. Et là, on a vraiment l'impression, avec ce que je viens de vous dire, qu'on a les deux colonnes. Avec Jésus, la colonne plus, c'est on est dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, dans la vie avec le Père, et donc on est sous la protection du Christ. Et les moins, en face, on est dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la haine, sous la coupe du diable, on est dans le tourment du monde, et finalement, on est sous la coupe de l'Antéchrist. Donc, tout ça fait que les choses apparaissent assez simples quand on fait ses plus et ses moins. Évidemment, comme toi tu as pu le faire, on va choisir les colonnes plus parce que c'est quand même un programme un peu plus enrichissant. Et ces deux colonnes, en quelque sorte, nous amènent au verset 29, là où s'était arrêté Emmanuel la semaine dernière, qui dit « Si vous savez qu'il est juste, si vous savez qu'il est juste ». Évidemment que tous ces plus qu'on a vus nous montrent qu'il est juste. Parce qu'être dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, c'est forcément un chemin juste. Et c'est comme si toutes ces qualités, en fait tout ce qu'on pourrait dire sur Dieu, sur le Christ, toute la manière qu'on a de vivre avec lui, tout ça amenait à la justice. Tout ça était les preuves de la justice de Dieu. Que peut-être la qualité première, c'est ce que nous dit ce verset, la qualité première de Dieu, c'est d'être juste. c'est d'appliquer la justice. Si vous savez qu'il est juste, comme il dit ce verset, c'est au nom que vous avez choisi tous les plus dont on a parlé. Et la justice, c'est pas pour rien que c'est ce mot-là qui est donné, c'est une des demandes les plus fortes de l'être humain, de nous tous. Depuis qu'on est à l'école, on est toujours là, c'est pas juste, ce professeur est sévère, mais juste. Tout dans notre travail, dans nos amours, dans nos relations, on demande tous à être traité avec justice. On a le sentiment que quand on est traité avec justice, à ce moment-là, même les coups durs, on les accepte mieux, parce qu'on se dit, quelque part, c'est normal. Et même les gilets jaunes qu'on voit à l'heure actuelle, ils sont là, qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils réclament de la justice. Une justice fiscale, justice économique, justice sociale. Alors le gros problème, c'est que on a tous une notion un peu particulière de la justice, et donc de l'injustice. On la met tous sous la lumière de notre propre vision, de notre propre subjectivité. On prend un seul exemple. On parle des taxes sur l'essence, etc. Donc on veut de la justice, que tout le monde paye pareil. Sauf qu'on oublie que ce pétrole, il est pris dans des pays dans lesquels on ne demande pas grand-chose. Et la première justice serait peut-être de leur rendre leur pétrole à eux, qu'ils en profitent plus, que nous, on est en train de les piller. Enfin, vous voyez, donc, sans partir dans des grandes choses, on voit bien que cette notion de justice, si elle est appliquée par nos modes de fonctionnement à nous, nos modes de réflexion, elle est totalement à géométrie variable. Et elle ne va... finalement que donner des petites maisons où chacun applique sa propre justice, mais qui ne va pas être la justice commune reconnue par tous. Et il est ainsi intéressant de voir que beaucoup de nos défauts, le vol, le mensonge, la violence et tant de choses, en fait sont des réactions à ce que l'on ressent comme une injustice. C'est-à-dire que je vole ce poste de télévision parce que c'est injuste que je ne puisse pas me le payer parce qu'on ne me donne pas les moyens de me le payer. Donc c'est juste que je le vole. Je mens parce que j'ai été humilié, etc. Et donc la seule manière que j'ai de remonter quelque part, c'est de mentir pour avoir ce poste que je n'ai pas eu de manière injuste, etc., etc. Vous pouvez tirer le fil comme vous voulez. Mais c'est pas de cette justice-là dont il est question, parce qu'on se rend bien compte que cette justice-là, elle est, comme je l'ai dit, à géométrie variable. C'est la justice de Dieu dont parle ce texte qui est fondamental. Cette justice qui est celle qui donne la lumière, qui est la vérité, qui est l'amour, qui nous permet de vivre avec le Père et de ne pas succomber aux tentations de l'Antéchrist. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a reconnu cette justice-là, la suite du verset est plus difficile. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est ça notre marque de fabrique en tant que chrétien. C'est ce que dit ce texte, c'est de pratiquer la justice. Et de cette justice, évidemment, va venir l'amour, la vérité, la lumière, etc. C'est de cette justice-là dont tout part. Cette justice, elle élimine la colère, elle élimine la jalousie, le ressentiment, l'intérêt. En fait, elle élimine la subjectivité de nos décisions dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le vieux rêve, j'en parle devant quelques personnes de justice ici, d'une justice humaine infaillible. On recouvre le juge d'une robe en se disant que quand il recouvre cette robe-là, déjà il devient un autre homme. Dans certains pays, on met même une perruque pour qu'il se cache encore plus derrière un autre personnage. Il y a un rituel, il y a des serments. Tout ça parce qu'on pense que, en faisant ça, on élimine du tribunal la passion du juge, qui est un homme comme vous et moi. Et on sait très bien, malheureusement, que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que si la justice était, si on avait créé cette justice parfaite, il n'y aurait pas besoin de faire appel. Alors vous savez que tout condamné a le droit de faire appel, ce qui sous-entend, et j'entendais un avocat en parler l'autre jour à la radio, que s'il y a possibilité de faire appel, c'est bien qu'on sous-entend que l'homme qui a rendu la justice a pu, à un moment ou l'autre, être pris sous le feu de sa passion personnelle, et donc on a besoin d'une deuxième chance pour être sûr que cette justice soit juste. Mais nous, on a la chance d'être appelés des femmes et des hommes justes parce que nous sommes nés de lui, et lui qui est parfaitement juste. Et quelle responsabilité ça nous donne, parce que du coup nous n'avons plus à donner une justice à géométrie variable. De cette justice va découler, je dis, notre rapport avec les gens, notre rapport avec notre famille, notre rapport avec dans notre travail, etc. Nous sommes les dépositaires de sa justice à lui, qui est absolument parfaite, et c'est nous qui ici-bas devons la pratiquer. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et cette responsabilité est étendue au titre même que nous donne alors l'apôtre Jean dans le verset qui suit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que le fait d'être né de lui, d'être les dépositaires de sa justice, ça fait de nous des enfants de Dieu. Ou c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous sommes dépositaires de sa justice, ça marche dans tous les sens, c'est la poule et l'œuf. Enfants de Dieu. C'est quand même un terme extraordinaire qui est employé au verset 3. Alors, avant, dans le texte, Jean nous dit « petits enfants, soyez, etc. » On est dans une espèce de fraternité horizontale. Mais là, Dieu, nous appelant ses enfants, nous englobe dans sa grande famille. Nous ne sommes pas les fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est réservé pour Jésus, pour les anges, je crois, dans l'Ancien Testament, il est parlé de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est génétiquement descendant de Dieu, en quelque sorte. Alors que nous, enfants de Dieu, c'est un choix. C'est une décision. C'est quelque chose qui va au-delà de ce que nous avons reçu comme ça. C'est une prise de responsabilité. Enfant de Dieu, c'est notre frère qui, quand il y a la Bible qui est lue chez sa mère, qui un jour il écoute, qui après il écoute, nous a dit, et il écoute. Il se met lui-même dans le cercle des enfants de Dieu, puisqu'il n'est pas né fils de Dieu. Et il y avait Jean-Jacques Goldman qui chantait une très belle chanson qui disait « Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens, bien plus que celle du sang. » Et c'est vrai que nous sommes tous de cette famille-là. On peut dire, vous savez, il y a des expressions, ce sont les enfants de mai 68, c'est-à-dire c'est tous ceux qui ont été imprégnés par ce qui s'est passé et qui, d'une façon ou d'une autre, dans leur vie individuelle et collective, continuent d'être imprégnés de ce qui s'est passé en mai 68, par exemple. Eh bien, nous sommes les enfants de Dieu, et tous ici, on n'a pas eu tout le même sang, on ferait des tests ADN, on n'aurait pas de cousinage en vue, mais par contre, on est là parce qu'on a décidé d'être de cette famille-là, d'être celle qui a fait que Dieu est notre Père, mais un Père que nous avons choisi et il nous a choisi. Et c'est beaucoup plus fort, parce que ça renvoie à notre identité personnelle, à notre choix personnel, à notre liberté personnelle. Alors tant mieux, si en étant fils de chrétien, on devient enfant de Dieu. Ça facilite les choses, sinon il faut passer par des bateaux, des choses compliquées, et des taxis et tout. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment ou l'autre, on décide d'être des enfants de Dieu, quelle que soit notre filiation. Et c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, ce que dit ce texte, que donc nous avons l'obligation de pratiquer la justice. Alors, le problème c'est que le monde est injuste. J'ai une très bonne amie qui travaillait au lycée comme professeur d'espagnol et qui me disait tout le temps, dès qu'elle donnait des devoirs, on lui donnait des notes, ses élèves de seconde disaient « Mais c'est injuste !» Et son grand truc c'était « Mais oui, sachez-le, jeunes gens, la vie est injuste. » Voilà, c'était réglé. Et on le sait, c'est ce qu'on dit le premier à nos propres enfants, la vie est injuste. Il n'y a pas une seule fois où on va se dire « Depuis le début, tu rentreras que dans des rails où tout se passera bien parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui donnera la bonne loi, le bon règlement, qui remettra les choses en place pour que tu sois traité équitablement. » On sait que ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que, comme le monde est injuste, intrinsèquement il est injuste, le monde n'a pas reconnu Jésus. Et c'est ce que nous dit le verset suivant, « Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Comment pouvait-il reconnaître un homme parfaitement juste, un Dieu parfaitement juste, puisque lui-même intrinsèquement n'est pas juste ?» Et puisque nous, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les porteurs de cette justice, c'est normal qu'ils ne nous reconnaissent pas. Et nous ne devons pas souffrir de cette non-reconnaissance, puisque elle est, en quelque sorte, naturelle. Le monde ici-bas n'a compris ni Jésus, ni son Père. C'est parce qu'ils étaient totalement opposés quant à leur origine, quant à leur caractère. Quand il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » C'est que le problème, c'est qu'il n'avait pas la nature capable de connaître ou de comprendre Jésus. Or, nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, par le miracle qui a fait que Remco a pu, mais qui, chacun d'entre nous pourrait venir ici et raconter une chose passionnante, incroyable, qui ne concerne que lui, qui fait qu'on est réunis ce dimanche matin, au lieu d'aller jouer au cerf-volant avec le beau vent qu'il fait dehors, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, et que donc nous avons reçu un bout de sa nature, qui fait que l'on peut comprendre qui il est, le percevoir, et donc admettre sa justice. Et en contrepartie, nous sommes 9 fois sur 10 dans l'incapacité d'expliquer à nos contemporains qui voudraient bien parler de l'évangile, etc. Parce qu'on se dit, ils sont pas de la même nature que nous. Oh, c'est pas qu'ils soient bêtes, c'est pas ça. Mais tant qu'il n'y a pas le déclic qui s'est fait, on peut pas l'expliquer. On est dans 2 mondes différents. Et c'est extrêmement frustrant, cette différence de nature entre eux et nous. Parce que là encore, on a une barrière. Il y a eux et nous. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu. Et cette frustration-là, il ne faut pas qu'elle nous fasse peur. Il faut qu'on l'assume, parce que le Christ, il l'a vécu lui-même. Assumons-la et faisons confiance à Dieu pour avoir un moment un chauffeur de taxi qui va ouvrir une porte pour que la nature de la personne qui n'est pas comme nous s'ouvre et qu'à ce moment-là, les choses de Dieu puissent passer. Et cette espérance de justice totale que nous avons tous en nous, maintenant, mais nous avons, pas pour notre petite personne à nous, comme peuvent avoir d'autres, mais telle que Jésus, le Dieu veut qu'elle soit, et que nous ressentons, eh bien, elle se réalisera lors de sa venue. Et là, nous serons semblables à lui, c'est ce que dit le reste du texte, enfin la suite, parce que nous le verrons tel qu'il est vraiment, et c'est impossible pour le moment. Écoutez, bien enfant, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Rappelez-vous, à chaque fois, je parle de cette histoire du livre de C.S. Lewis, Le silence de la terre, dont on parle une fois tous les 3 ans, donc je recommence. Parce que je trouve que c'est une image extraordinaire à chaque fois. C'est un très très beau livre. C.S. Lewis, théologien remarquable et romancier. Donc il dit que la terre, une fois que le diable en a pris possession, a été recouverte d'une immense carapace. Imaginez le globe et dessus un autre globe en fer forgé dur, donc qui coupe toutes les communications avec Dieu en quelque sorte. Et Dieu, voyant ça, à un moment envoie son fils qui vient, simplement faisant un petit trou dans cette carapace énorme, dans ce bouclier, et par ce petit trou, il vient sur terre, etc. Et nous, on ne voit le monde de Dieu qu'à travers ce petit trou qu'il a fait, dans lequel il est remonté, et voilà, il y a là ce petit brin de lumière qui passe. Tout le reste est dans l'obscurité et dans le noir. Alors évidemment qu'on ne peut pas avoir une vision globale de la justice de Dieu, de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, puisque on ne peut voir pour le moment qu'à travers ce petit trou-là. Mais au retour de Dieu, ce bouclier, ce carapace, elle va exploser. Et fouaf! La lumière va venir partout. L'amour va venir partout. La vérité va venir partout. Et Dieu sera partout. Et non pas un petit coin qui arrive à passer par ce petit trou-là. Rappelez-vous, dans la transfiguration, dans Marc 9:3, il est dit que Jésus est apparu avec un vêtement d'un blanc qu'aucun tissu n'existe comme ça. Enfin, un truc extraordinaire, un blanc lumineux, extraordinaire. Voilà, c'est comme ça qu'on le verra. Et c'est comme ça que nous, alors, nous serons lavés, propres, mais totalement, des pieds à la tête. Et ce sentiment, on le connaît parfois. Regardez ce qui est dit juste après. Quiconque a cette espérance, donc de le voir et d'être comme lui, se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'est le miracle d'être enfant de Dieu. Tous ici, j'en suis certain, un moment ou l'autre, vous êtes dans une décision à apprendre, un choix à faire, quelque chose, et donc vous deviez faire votre propre justice, en quelque sorte. Et vous avez décidé, en lisant la parole, en priant, de dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Et paf, on prend la décision bonne. Et à ce moment-là, on a le sentiment d'être lavé, d'être propre, d'être heureux, d'être bien, d'être en parfaite adéquation avec notre Dieu, même si c'est que à travers cette petite lumière qui passe là. Ce sentiment-là, il est extraordinaire, parce qu'on sait que c'est sa justice qui est venue dans notre vie et qui nous a fait régler ce problème par sa loi à lui et non pas par la nôtre. Et ce sont des moments merveilleux, même dans les soit les plus simples ou les plus compliqués, où on se dit « je suis exactement dans le droit chemin, dans la vraie vie, dans ce qu'il veut ». Et ça donne un sentiment de pureté qui nous fait à ce moment-là sentir au micro-millionième ce qu'on sera quand on sera avec lui totalement de blanc vêtu, avec une lumière qui nous éclairera de partout. Appuyons-nous sur ces moments-là. Ne les galvaudons pas. Ce sont ces moments où on est enfant de Dieu à part entière, et c'est la promesse, comme dit le texte, de ce qui va nous arriver. Parce que la justice bien appliquée, la justice de Dieu, donne le sentiment de la pureté. Et le sentiment de la pureté, ça élimine tout ce qui nous fait du mal. Ça élimine toute notre colère, toutes nos jalousies, toutes nos haines, tous nos désirs, tous nos vices, tout ce qui nous fait du mal. Et quand le soir, on est seul en ligne, qu'est-ce que j'ai été abruti de me comporter comme ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, tu sais qu'il faut pas, grosse nouille, là tu es pas pur. Alors que quand on est dans sa justice absolue, qu'on fait tout selon sa loi à lui, puisque la justice est l'application de la loi, on n'a plus ce vieil homme en nous qui nous bouffe, qui nous dévore et qui nous pollue régulièrement. Mettons jour après jour, minute après minute, ces petits moments de pureté qui sont arrachés à l'injustice du monde et qui sont pris à la justice de Dieu. C'est ça notre trésor. C'est ça être des enfants de Dieu. Je vous avais dit que cette lettre, c'est celle des contrastes, des contraires. Nous y arrivons. Tout ça est très bien écrit pour arriver au feu d'artifice qui va nous mettre un coup sur la tête. Il est dit plus tard, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Alors là, on n'est pas très d'accord sur les traductions. Il y en a d'autres qui disent pratique l'iniquité. A priori, sur ce que j'ai lu, je préfère l'iniquité, mais on va pas se battre. Quiconque pratique le péché pratique l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, qu'il n'y ait point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà une phrase qui fait très peur, parce que là, il met la barre très haut aux gens. Il dit, quiconque connaît Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Mais c'est le truc inverse, quiconque pratique le péché ne connaît pas Dieu. Alors là, on se dit, bon, c'est bon, on va tous pas partir, parce qu'il n'y en a pas un, là, hein. Qui peut dire qu'il ne pratique pas le péché. Mais revenons à ce que ça signifie en fait. C'est-à-dire pratique l'iniquité. L'iniquité, c'est la marche sans frein, c'est la marche sans loi. C'est ne pas enfreindre la loi. C'est ne pas reconnaître qu'il y a une loi. C'est avoir sa propre marche à soi, en dehors de toute légalité. Et ça va plus loin, c'est pas dire je suis à côté de la légalité, donc ça veut dire de quelque sorte reconnaître qu'il y a de la légalité. C'est dire il n'y a pas de loi, je suis ma propre loi. C'est ça l'iniquité, c'est ça le péché. C'est la négation, le refus de toute loi. Par exemple, si les planètes qui tournent autour du soleil se mettaient soudain à rejeter cette loi-là, le système solaire serait détruit. Ça ne fonctionnerait pas. L'iniquité chez les créatures intelligentes de Dieu est pareillement mortelle. Elle détruit son ordre moral, son propre gouvernement. Donc, n'ayons pas peur que nous entendons ça. Ce que Jean veut dire, parce qu'il met la barre très haut depuis le début de toute façon, c'est que c'est pas parce que vous continuez à pécher, ce qui est notre cas, que vous n'êtes plus avec Dieu. Non, il veut parler du péché, de l'iniquité au sens abstrême, donc le plus fondamental du terme. C'est-à-dire le péché contre l'esprit dont Jésus reparlera plus tard. C'est ça dont il est question. Celui qui rejette la loi de Dieu, la justice de Dieu, mais qui la rejette parce qu'il veut même pas qu'elle existe, parce qu'il pense de nature que ça n'a pas de sens. Donc, lui, à ce moment-là, n'est pas de Dieu. C'est comme pour un vaccin. Par exemple, vous prenez le vaccin contre la grippe. Merveilleux, vous n'avez pas la grippe. Mais docteur Montel, je ne me contredirai pas, ça n'empêche pas d'avoir des rhumes, le nez qui coule, etc. Mais vous n'avez pas la grippe. Mais vous avez des effets secondaires. Nous, c'est exactement pareil. nous avons les effets secondaires de notre nature mortelle, de notre présence ici-bas dans ce monde qui ne connaît pas la justice de Dieu. Mais au fond de nous, le vaccin, on l'a reçu dans notre conversion. La mort n'existe pas, elle sera transformée en éternité, même si on a un effet secondaire de notre mort corporelle, on ne peut pas y échapper. Donc c'est de ça dont il est question dans ces lignes que je viens de dire. Celui qui pratique le péché, c'est-à-dire celui qui pratique l'iniquité, celui qui refuse d'admettre même qu'il y ait une loi, une justice divine, celui-là n'est pas de Dieu. Je prends une autre image. On reconnaît un arbre à ses fruits. Évidemment. Yann nous en parlait, que tout le début de cette lettre, c'est quand Jean se bat dans la ville où il est contre les gens qui disent que le corps a aucune importance. L'important, c'est d'avoir l'idée qu'avec le corps, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas sur ça qu'on sera jugé. Et Jésus répond à ça. On juge un arbre à la valeur de ses fruits. Quelqu'un qui est dans le péché dont on parlait tout à l'heure, c'est pas son arbre c'est pas ses fruits qui sont pourris, c'est ses racines qui sont pourries. Et de racines pourries, peut-être de temps en temps, il y aura un beau fruit. On dira, tiens, cet homme est de qualité, il a fait cette belle action, mais les racines sont mortes. Nous, on avait des racines pourries, les racines ont été sauvées, sont devenues des racines saines, mais même avec un arbre qui a des racines saines, tous ceux qui ont un verger savent très bien que de temps en temps, il y a une pomme qui est pourrie, un abricot qui est véreux, etc. C'est ça nos petits péchés de tous les jours, dont on se repent, dont on n'est pas content, dont on demande pardon. Mais ne nous flagellons pas sur quelque chose qui, dans notre nature, on peut pas faire autrement. Par contre, nous, on s'en rend compte quand notre fruit est véreux, quand notre pomme, c'est une saleté. On la prend, on la jette, on essaie de pas trop la croquer, on essaie que si on en voit une tout de suite, avant qu'elle devienne grosse, on la met par terre. Mais nos racines, elles sont redevenues saines, parce qu'on est enfant de Dieu. Et on arrive au terrible verset 9, je vous disais qu'on était dans les contrastes. Donc je relis quand même 7 et 8, ce dont je viens de parler. « Petits enfants, que personne ne vous séduit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » On voit bien de quel péché il s'agit. « Le Fils des dieux a paru afin de détruire les œuvres du diable. » J'aurais presque rajouté « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable et que naissent plein d'enfants de Dieu. » Et le verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Car celui qui est né de Dieu ne peut renier son Dieu. Il peut faire toutes les bêtises du monde qu'il souhaite, dont il ne peut pas s'empêcher parce qu'on en est tous là, mais il ne peut pas être arraché à Dieu, parce qu'une fois qu'on est né de Dieu, en toute sincérité et en toute conscience, on est attaché à lui par ses racines saines qui nous sauvent, quoi qu'il arrive. Alors, si on reprend mes plus et mes moins, lumière, vérité, amour, Dieu, vie avec le Père, Christ, on va rajouter pureté et justice, qui est la somme de tout. Dans les moins, ténèbres, mensonges, haine, diable, vie avec le monde, antéchrist, impureté, injustice. Tout ça nous fait arriver au verset 10. C'est par là, donc tous ceux qui suivent la justice et donc tous les plus, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà où on en est. Il n'y a pas les enfants un peu... Il y a les enfants du Dieu, les enfants du diable. Mais quelle violence pour nous, pour nos contemporains, à notre époque consensuelle, où un aveugle est un malvoyant, un handicapé, une personne à mobilité réduite, même un agonisant, une personne en fin de vie, on ne dit pas les mots. Eh bien nous on dit, parce que la Bible nous le dit, il y a d'un côté les enfants de Dieu et d'autre les enfants du diable. Vous allez dans la rue, t'es un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Attends, ça va, il sort la Kalachnikov, il dit t'es un malade, toi. Pas comme ça, chacun, on essaye, la Judée. Non, on n'essaye pas. On en est là. Si on est ici, c'est parce qu'on est des enfants de Dieu. Et ceux qui n'en sont pas, sont des enfants du diable. Les enfants de Dieu vont avec Dieu, les enfants du diable iront avec le diable. C'est extrêmement violent parce que c'est vraiment pas dans notre culture contemporaine, et j'aurais fini très très vite, de dire ça. Même, je sais même pas si on le pense encore. Moi, ça m'a vraiment remis à l'ordre du jour, en quelque sorte. On ne peut pas jouer avec notre foi. Et c'est aussi pour ça que le monde ne peut pas nous comprendre. Et on doit, nous aussi, vraiment être bien d'accord avec les enjeux de notre existence, parce qu'on est dans un film d'horreur. Le jour où nous sommes nés, merci nos parents, ils nous ont fait naître dans un film d'horreur. Dans un monde dont on ne sait rien, une petite boule qui est paumée dans un univers dont on ne comprend rien, malgré toutes les recherches qu'on essaye, on est toujours en phase de questionnement perpétuel. On est, on essaye de vivre, on meurt, et en plus on se dit ensuite c'est terminé, on ne sait même pas. Nous sommes dans un film d'horreur. Et c'est parce que Dieu sait que nous pouvons imaginer que nous sommes dans un film d'horreur à juste titre, qu'il est venu nous rappeler, parce qu'on l'avait oublié à cause de ce grand bouclier, que c'est lui qui nous a créés, que c'est pas un film d'horreur, que ça peut être un film extraordinaire, si nous sommes avec les enfants de Dieu. Si nous sommes avec les enfants du diable, ça sera en effet un film d'horreur. Ce qui est bien un film d'horreur, c'est qu'au bout d'une heure et demie de projection, ça s'éteint, on sort, c'est terminé. Dans cette horreur-là, c'est sans arrêt. Alors ça paraît débile de dire ça, enfin, c'est tellement... Mais c'est ce que nous dit la Bible. Ne l'oublions pas. À chaque fois qu'on joue avec notre foi, qu'on joue avec ce qu'on va raconter aux autres et tout, on bascule ou avec les enfants de Dieu ou avec les enfants du diable. Et c'est d'une violence et d'une précision. Et ça demande de la part de chacun d'entre nous une prise de conscience, une prise de position absolument essentielle. Sinon, c'est du vent. On joue, on fait des belles choses, on s'amuse, on est très heureux de se retrouver, on partage les mêmes valeurs. Mais l'enjeu, il est, est-ce que vous êtes des enfants de Dieu ou des enfants du diable ? Ayons ça en tête. Et soyons heureux et rassurés d'être du côté des enfants de Dieu, mais soyons-en fiers. Et surtout, soyons-en dignes et pratiquons cette justice des enfants de Dieu. Au sens où on l'a dit tout à l'heure, et tel que l'apôtre Jean nous la donne, dans tout ce que nous avons offert au quotidien de cette justice. Et le verset que j'étudie se termine comme ça. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils mettent un point, en fait, il y a deux points. La cause. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. On avait commencé par ça, on termine par ça. Être de Dieu, c'est pratiquer sa justice. Et sa justice, on la connaît. On l'a au fond du cœur, on sait très bien quelle est sa loi. Et quand on est en dehors de ses clous. Et juste après, il dit, donc quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Parce que aimez-vous les uns les autres. C'est la conséquence de la justice de Dieu. Et toute la suite, je crois que c'est Yann la prochaine fois qui s'y colle. Toute la suite, c'est comment aimer son frère à partir de ce postulat de base, enfant de Dieu, donc vous pratiquez la justice de Dieu, donc aimez vos frères.